Radio Okapi.
La littérature est bien plus qu'un simple assemblage de mots. Elle est un espace de liberté, de réflexion et de création qui permet aux jeunes de mieux comprendre le monde, de développer leur esprit critique et de donner une voix à leurs aspirations. Dans un contexte où les réseaux sociaux occupent une place grandissante dans le quotidien de la jeunesse, le livre demeure un outil précieux de formation, d'éveil et de transmission des valeurs. Et lorsque la passion de l'écriture rencontre le talent, elle peut ouvrir les portes de plus grandes distinctions. C'est le cas du jeune journaliste et écrivain Pascal Boroto qui a marqué l'histoire de la littérature congolaise en devenant le premier auteur de la République démocratique du Congo à remporter le prix Voix d'Afrique 2026 grâce à son roman Le nom de ma mère. Une consécration qui honore non seulement son parcours, mais aussi toute la littérature congolaise. Dans ce numéro des 100% jeunes, nous allons revenir sur son aventure littéraire, comprendre les clés de son succès et échanger avec lui sur la place de la lecture et de l'écriture dans l'épanouissement de la jeunesse. Comment susciter le goût du livre chez les jeunes? Quels sont les défis auxquels font face les écrivains congolais? Et quelle contribution la littérature peut-elle apporter au développement de notre société et à la consolidation de la paix en RDC? Autant de questions que nous aborderons avec notre invité. Restez avec nous. La mise en onde est assurée par Pierre Diassinois. Je suis Grâce Amzati. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 100% Jeunes, le magazine des jeunes, avec les jeunes et pour les jeunes.
Votre connexion internet est trop lente? Radio-Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio-Okapi.net, à votre service.
Bonjour et bienvenue dans 100% Jeunes. Lire, écrire, raconter des histoires, transmettre des idées et faire réfléchir la société, la littérature joue un rôle essentiel dans la formation des jeunes. Elle nourrit l'imagination, développe l'esprit critique et permet de mieux comprendre les réalités de son époque. Pourtant, à l'heure du numérique et des réseaux sociaux, le livre peine parfois à trouver sa place dans les quotidiens de nombreux jeunes. Et pourtant, la littérature congolaise continue de révéler des talents capables de s'imposer sur la scène africaine et internationale. L'un d'eux s'est particulièrement illustré cette année en remportant l'un des prix littéraires prestigieux du continent. Pour en parler, nous recevons donc le jeune journaliste et écrivain congolais Pascal Boroto, lauréat du prix Voix d'Afrique 2026 grâce à son roman Le nom de ma mère.
L'invité.
Pascal Boroto, bonjour.
Bonjour, messieurs Grâce.
Bienvenue à Radio Capi, surtout dans l'émission de vous les jeunes, hein, 100% jeunes.
Merci pour l'invitation.
C'est la première fois à Radio Capi?
La toute première fois.
La toute première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois non plus.
Je l'espère en tout cas.
Très bien. Alors ça, c'est votre magazine 100% Jeunes. Alors Pascal Boroto, la première question, vous savez, quand on étudiait, quand on était à l'école et qu'on nous parlait des écrivains, on pensait que les écrivains ne pouvaient être que des grandes personnes, c'est-à-dire des vieux. Mais du coup, aujourd'hui, nous tombons sur des jeunes écrivains, dont Pascal Boroto.
Oui.
Comment vous vous sentez dans la peau d'un écrivain en tant que jeune?
En tant que jeune, je ne saurais pas les dire en tant que jeune parce que pour moi, la littérature est proche de tout âge. Mmh. Voilà, un enfant peut écrire tout comme un jeune, tout comme un vieux. Et voilà, peut-être au vu de ma posture à moi, aujourd'hui, la littérature occupe désormais une place très centrale. Mais ce qui fait très plaisir parce que j'ai toujours eu à écrire. Et aujourd'hui, avec cette reconnaissance que j'ai à cause de l'écriture, c'est plus de la joie que tout autre. Mm-hmm. Quoique mon écriture est assez engageante, oui.
Et qu'est-ce qui vous a inspiré?
Ce qui m'a inspiré, c'est ma mère. Quand j'ai dit ma mère, c'est surtout en fait les besoins de tenir après la perte de ma mère. Parce que j'ai eu à perdre ma mère, Solange Lusiku Simire Kayange, en 2018. Et j'ai commencé à écrire ces romans en soi, Les noms de ma mère, à cause de cette perte-là. de ses besoins de tenir, de ses besoins de vouloir extérioriser cette douleur, cette perte, parce que voilà, comme j'aime le dire, j'ai toujours été un fils à maman. Et voilà, tout est parti de là. Mais j'écrivais déjà, certes, des petites histoires, des petits articles, par-ci par-là, mais jamais un roman. Mais voilà, je me suis consacré corps et âme. Plusieurs personnes diraient que j'ai toujours à dire quand il s'agit de ma mère, ce qui a donné un livre.
On aura le temps de parler justement un tout petit peu du contenu de ces livres. Pascal, quel constat ou quel état des lieux faites-vous de la littérature chez les jeunes Congolais?
Les jeunes Congolais aiment la littérature. Les gens, beaucoup de personnes croiraient le contraire, mais c'est pas vrai. Moi déjà, je n'ai pas traîné ici à Kinshasa jusqu'à là, mais je reçois des messages, je vois cette envie de lire, cette envie d'écrire. Je dirais que voilà, on est juste en manque d'outils pour les faire, voilà, pour s'asseoir dans ces mondes littéraires. Et même à Bukavu, à l'est du pays d'où je viens, il y a cette envie-là, mais je dirais qu'on manque au fait d'une certaine sensibilisation dès le bas âge, surtout dès le bas âge, pour qu'on s'imprègne de la littérature en soi. Mais l'envie, elle est là et on essaie tant bien que mal d'en profiter, de s'immerger.
Pensez-vous vraiment que c'est le manque de moyens qui fait que certains jeunes ne lisent pas ou n'écrivent pas, ou le manque de sensibilisation, comme vous venez de le dire, ou il y a d'autres aspects ou d'autres facteurs qui peuvent justifier ces constats-là? C'est vrai pour vous, les jeunes aiment la littérature, mais seulement ils n'ont pas assez de moyens pour leur permettre d'évoluer dans ces domaines-là.
C'est un peu de tout, mais en gros, oui, il y a cette manque de structuration, tout d'abord, dans le monde littéraire, dans notre monde littéraire à nous. Aujourd'hui, avec la nouvelle tendance, c'est qu'il y a déjà des initiatives de structuration en ces sens. Mais voilà, nous, on a toujours eu à faire face, je dirais, à cette structuration-là. Et la structuration qui entraînera sans doute d'autres choses, parce que voilà, les livres, ça ne se donne pas, ça ne s'offre pas gratuitement. Il faut des moyens pour acheter un livre. Donc voilà, là je parle de nous jeunes, on s'attelle généralement à trouver des opportunités, parce que voilà, la vie n'est pas facile pour tenir et avoir un petit rien. On doit généralement, en premier lieu, on doit penser comment ça pourrait nous aider pour survivre. Et maintenant, aller jusqu'à penser à acheter un livre, c'est tout autre chose. Voilà, donc je dirais, il y a un peu de tout, mais tout doit partir de la structuration, tout doit partir de cette accessibilité-là, cette sensibilisation aussi, qu'on ne se dise pas qu'on lit pour une sorte d'obligation quelconque, mais qu'on lise parce que ça fait partie de nous, parce qu'on l'a, on a appris à aimer à lire, on a appris à aimer à écrire dès le bas âge. Que ça soit, je dirais, normal pour nos jeunes qu'on se retrouve en train de lire, qu'on se retrouve en train d'écrire, comme on peut le constater ailleurs. Quand je parle de l'ailleurs, je vois l'Occident et d'autres pays, même d'Afrique. Je ne dirais pas qu'il n'y a que nous ici en RDC, mais on fait partie de ces pays-là, qu'on n'offre pas, je dirais, cet espace aussi à la jeunesse, qu'on ne nous sensibilise pas à la littérature et à l'écrit.
Puisque vous insistez sur cet aspect des choses, c'est quoi l'avantage ou quels sont les avantages de la littérature, particulièrement pour les jeunes et surtout en RDC?
Particulièrement pour les jeunes. Wow. Pour les jeunes Congolais, en fait, la littérature en général offre beaucoup. Mm-hmm. Et quand je parle de beaucoup, je vois déjà la culture en soi. Et nous, déjà, nous Congolais, on a besoin plus que jamais d'être cultivés. Et la culture ici, on la retrouve, une culture bien faite, je dirais, on la retrouve dans la littérature. Parce que la littérature a cette possibilité-là et cette facilité-là de nous enseigner en passant d'une histoire à une autre, pas forcément avec des cours comme tels. Parce que dans une histoire, prenons par exemple avec ce roman en soi, Les Noms de ma mère, facilement on arrive à comprendre la situation actuelle des victimes de l'Est du pays. Et là, je ne suis pas là en tant que professeur qui pointe du doigt l'Est du pays. Voilà, mais ça part de mon histoire intime. Tout comme il y a des faits qu'on arrive à apprendre dans des histoires que je dirais, des romans, je dirais, amoureux. Voilà, la littérature nous offre cette possibilité-là d'apprendre à partir des histoires, je dirais, pluridisciplinaire, dans bien d'autres choses.
Particulièrement pour les jeunes ou les habitants de l'Est, de la RDC, est-ce que la littérature ou les livres n'est pas aussi un moyen de communication ou de plaidoyer, en quelque sorte?
Oui, pas que pour nous, à l'Est du pays.
Ah, justement par rapport au contexte sécuritaire, par exemple.
Voilà, aujourd'hui, pour informer, il est très important de diversifier nos canaux. Qu'on parte du journalisme ou de la littérature, c'est bien. Tant qu'on informe, pour moi, c'est très important. Et nous, ou je dirais moi, je suis aussi journaliste. J'évolue dans la presse écrite. Mais voilà, et j'ai toujours essayé à informer sur la situation que nous vivons à l'est du pays. Mais ça n'a jamais tenu. Quoique je sais qu'il y a eu quelques personnes qui ont peut-être pu me suivre. Mais j'ai plus accroché avec un livre, avec un roman. Et pour moi, ça dit beaucoup et je ne peux que remercier les lecteurs pour ça. Mais voilà, et aujourd'hui, quoique on informe aussi par la littérature, mais pour moi, jusque-là, je dis que ce n'est pas encore assez.
Il faut continuer, il faut multiplier la sensibilisation.
Voilà, il faut toujours, la sensibilisation en fait, ne s'arrête jamais. Parce qu'il y aura toujours le bien et le mal dans ce monde. Et c'est dire que, voilà, on a assez sensibilisé sur ce sujet, voilà, essayant de faire autre chose. Non, ça ne passe pas, parce que le mal continuera.
Comment votre environnement vous considère ou perçoit ces statuts des jeunes écrivains? Est-ce que on vous encourage ou tout simplement on s'est dit, ben, c'est un écrivain, il manque à faire, voilà pourquoi il commence à écrire, il s'est fait appeler écrivain. Ça se passe comment avec votre entourage? Parce que quand on est jeune, c'est vrai, on est fréquenté par des jeunes, il y a des observations et des critiques qui peuvent venir de partout. Et vous, c'est comment? Ça se passe comment?
Oui, il y a des encouragements. Beaucoup, je reçois des messages d'un peu partout qui m'encouragent de continuer parce que, voilà, je me dis aussi qu'il y a une forme d'inspiration. Ce que je trouve inestimable, ce que j'estime alors inestimable pour moi de me dire que voilà, aujourd'hui Pascal Borotto arrive à inspirer une telle ou telle autre personne. Voilà, parce que j'ai reçu des messages qui disaient en quelques mots, je dirais, moi aussi je veux faire comme toi. Moi aussi j'ai quelque chose à dire, mais jamais je n'ai pensé à écrire un livre, mais avec tout ce que je vois, je vais essayer d'écrire un livre et peut-être que d'ici là je t'enverrai quelque chose pour que voilà que tu me donnes ton avis et ça fait plaisir.
Vous, on vous encourage, mais qu'est-ce que vous direz de ceux-là qui pensent que la littérature ne paie pas et faut arrêter à Eli Paquet? C'est-à-dire un jeune, il s'est dit, je ne peux pas perdre mon temps à me lancer dans la littérature alors que j'ai un avenir à construire. Et pour beaucoup de gens, l'avenir qu'il faut construire, c'est peut-être dans les domaines politiques, dans l'économie, pas dans la littérature. Qu'est-ce que cet écrivain, ces jeunes écrivains de Pascal peut leur dire?
En fait, je pense que un travail, s'il est bien fait, ne doit jamais songer à l'argent comme tel. D'abord, il doit y avoir une forme d'inspiration. On doit normalement faire quelque chose qui nous anime pour bien le faire. Donc, pour ceux qui chercheraient, en tout cas, de faire la littérature comme telle, de s'adonner à la littérature comme telle pour chercher une forme de, voilà, reconnaissance pécuniaire, pour moi, je dirais que qu'ils doivent chercher autre chose. Mais forcément, cette autre chose-là demandera aussi à ce qu'on s'y donne corps et âme. Et pour s'adonner à quelque chose corps et âme, il faut tout d'abord qu'on aime ce qu'on fait.
Il faut aimer ce qu'on fait. C'est le premier message que Pascal lance à tous les jeunes congolais qui les suivent sur les antennes de Radio Capi. Alors, nous allons évoluer, Pascal, et nous allons parler un tout petit peu de ces romans avec votre statut des jeunes. Vous racontez une histoire à travers ces livres. Les livres intitulés « Les noms de ma mère ». Et lorsque je prends ces livres, je l'ouvre. Il y a une très belle phrase, l'épigraphe qui m'accueille. Quand on l'ouvre, tout de suite on voit « Tout ce qui ne peut se dire, s'écrit. » Tout ce qui ne peut se dire, s'écrit. Ça dit beaucoup, hein?
Oui, exactement, ça dit beaucoup. Parce que moi, personnellement, tout ce que j'ai à dire dans ces romans, je ne l'ai jamais, offerte au monde de vive voix. Et j'ai toujours été quelqu'un qui, voilà, garder ses sentiments pour moi-même. J'ai toujours gardé mes sentiments pour moi-même. Mais j'avais besoin, je pense, d'extérioriser tout ce que j'ai porté. Et je n'ai trouvé que de feuilles et une plume pour les faire. Voilà, parce que ces romans, comme vous le savez, parlent de la perte de ma mère. En tout cas, tout part de la perte de ma mère, qui était une journaliste et une militante engagée pour les droits humains, singulièrement les droits de la femme. Et comme je l'ai dit, je cherche à trouver ma mère au détour d'un paragraphe. Je cherche à retrouver ma mère, cet amour maternel qui m'a façonné, m'a inspiré à devenir la personne que j'essaie de devenir en tout cas. Et voilà, ce qui m'a entraîné quelque part dans les archives de ma mère, c'est ce qui par après m'entraîne à faire mes premiers pas en journalisme dans le journal Les Souverains Libres basé à Bukavu, le journal que ma mère tenait, où je me retrouve aussi aujourd'hui. Par la suite, voilà, ce chemin m'a amené jusque dans les camps des déplacés, dans le cadre du travail mené pour le camp du Fonarev, comme agent d'identification des victimes dans plusieurs camps. Et voilà, ces romans portaient tout ça. Ces romans portent aussi les voix des victimes. Ça porte leurs paroles et leurs mots, leurs problèmes.
Plusieurs fois, nous parlons de la contribution des jeunes dans le rétablissement dans les processus de paix en RDC. Et vous, vous avez trouvé votre moyen de contribuer justement à cette paix, c'est l'écriture, à travers notamment ces livres. Je vais lire juste le premier texte.
Ça fait plaisir. Oui.
On va lire ensemble. Je suis né dans un pays qui ne sait plus s'il est vivant. Un pays qui doute. Un pays qui survit plus qu'il ne vit. Et je m'y reconnais. Moi aussi, je doute. Moi aussi, je cherche. Moi aussi, j'avance comme on avance dans le noir, à tâtons. Quand j'ai dit la RDC, je ne pense pas à un territoire qui couvre une superficie d'environ 2 345 410 km². Je pense à un cri. Je pense à une chambre où une femme est violée sans bruit. Je pense à un marché où l'on vend des mangues à côté d'un corps sans vie qu'on refuse de voir. Je pense à un bébé qui meurt dans un hôpital bombardé. Je pense à cette ligne invisible entre l'oubli et l'espoir où la famine tue plus que les armes. Je pense à cette ligne dangereuse sur laquelle je marche depuis que j'ai commencé le journalisme. Et plus j'avance, plus je réalise que je n'écris pas que pour moi. Mon écriture est un pont, une main tendue, qui prend sa source dans cette tension-là, celle qui existe entre la vie et la disparition, entre l'absolution et la dénonciation, entre la présence et le manque. Au fond, elle naît de l'espace qui me sépare et me relie à ma mère et à ma terre. Je pense que tout est résumé dans ces premiers passages.
Exactement.
Ah, Pascal.
Oui. Oui, comme vous le savez, je suis originaire de Bukavu, là où je vis, là où j'ai toujours vécu, et j'ai grandi avec une guerre racontée en chiffres. On a dit j'ai grandi, oui, au présent, parce que voilà, la guerre est toujours là. Et imaginez-vous, c'est plus de 26 ans de violence résumée à des bilans, plus de 26 ans de violence réduite à des rapports. À un rapport mapping. Et moi, personnellement, cette immersion dans le camp, dans le cadre du travail comme agent d'identification, a changé mon regard. C'est que j'ai vu et entendu dans ces camps la cruauté humaine que j'ai retrouvée entre ces bâches et que j'ai entendu entre ces bâches, sous ces bâches, m'a complètement changé. Là, je ne vous parle pas spécifiquement d'une histoire comme celle de Migano, une petite fille de moins de 10 ans qui me parle de viol et de mort, qui porte son petit frère au dos. Imaginez-vous, et cette petite fille qui désormais doit penser à ce qu'ils vont manger le soir à midi. Une fillette de moins de 10 ans qui porte son petit frère au dos. Imaginez-vous, vous parlez de mort, de viol et de famine. Et c'est là que j'ai compris que, voilà, derrière chaque chiffre, il y a une vie, il y a une histoire, il y a une fracture réelle. Et je me suis dit, comment est-ce que ce monde laisse passer ça? Comment est-ce que nous, en tant qu'humains, on arrive à créer ces mondes? Et voilà, je me suis dit, non, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Qu'est-ce que j'ai pour porter ces mots, ces problèmes, ces paroles, ce genre de paroles? Je n'avais que ma plume à moi et voilà, et des feuilles.
Toute l'enfance de Pascal Borotto, ainsi qu'une partie de sa jeunesse, se sont passés ou se passent dans la guerre.
Exactement, mais moi, je n'avais jusque-là jamais vécu la guerre au contact réel comme tel. Mm-hmm. Oui, la guerre, elle a toujours été là, à l'est de notre pays. Mais voilà, peut-être, j'irai jusqu'à dire que peut-être ma mère m'a épargné de ce monde-là, mais la guerre, elle a toujours existé. Et nous, moi, je suis de Bukavu, dans la ville. On écoutait, on savait qu'il y a des exactions commises dans les plaines, mais pas en ville, comme aujourd'hui, jusqu'à maintenant là. Et pour la toute première fois, je voyais la guerre comme telle, et avec tout ce qu'elle apporte. Cette cruauté humaine, j'ai vu cette cruauté humaine à l'œil nu. Et je me suis interrogé sur ce manque de reconnaissance des crimes commis en République démocratique du Congo. Et voilà, cette interrogation même se trouve dans ces romans. Comment on n'arrive pas à reconnaître les crimes qu'on arrive à vivre, qu'on continue de vivre, et voilà, ça fait plus de 26 ans. Et quand on échange avec une victime, la première chose qu'une victime recherche avant toute autre forme de réparation, c'est l'écoute. Une écoute sincère après l'écoute, vient ses besoins de reconnaissance. Qu'on ne remette pas son parole en question. Qu'on prenne ce temps-là de comprendre ce qu'il y a à vivre. Quelque part, je me suis aussi retrouvé dans chaque victime que j'ai rencontrée, parce que chaque victime a parlé d'un proche perdu.
Mais vous n'avez pas été en contact direct avec la guerre. Pourquoi, cette question revient, pourquoi seulement dédier ça à votre mère?
Voilà, parce que, comme je dis, tout part de ma mère. Parler aujourd'hui, pour moi, de l'est, de la situation sécuritaire à l'est du pays, c'est aussi parler de ma mère. Pourquoi? Parce que ma mère, je dirais, informée sur cette situation depuis. Elle était journaliste, comme vous le savez. Et déjà, quand on tombe dans ses archives, que vous aurez peut-être à voir quelques articles dans les livres, elle dépeint la situation de l'est du pays. Elle dénonce tout ce qui se passe à l'est du pays. Et voilà, quand j'essaie de parler de ma mère, je ne peux pas détacher cette casquette journalistique que ma mère portait, parce que voilà, d'autres personnes, le monde connaît ma mère comme une journaliste, une militante engagée, qui a eu à recevoir des prix, voilà, au niveau même international. Mais pour moi, elle était, quoi qu'elle était tout d'abord ma mère, mais aussi ça fait partie de sa vie.
Et donc ici, vous voulez perpétuer la lutte de votre mère?
Pas que je les cherche ou que je veux. Oui. Je me suis retrouvé en plein dedans. Mm-hmm. Et voilà, je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait cette lumière au-dessus de ma tête, au grand jamais. Mais voilà, je suis entré dans le journalisme, je suis entré dans les bureaux du journal Les Souverains Libres, parce que moi, d'abord, je recherchais à comprendre ce que ma mère faisait. Mais en voulant comprendre ce que ma mère faisait, je me suis retrouvé à aimer ce qu'elle faisait. Mm-hmm. Et par aimer ce qu'elle faisait, je me suis retrouvé dans les camps des déplacés. Voilà un peu, je me suis retrouvé à faire face à la situation sécuritaire de mon pays.
Et c'est à ce moment-là que vous comprenez ce que votre maman dénonçait, ce
exactement.
Que votre maman disait régulièrement.
Surtout, pourquoi est-ce qu'elle le faisait? Parce que beaucoup de gens peuvent dire que ma mère s'entêtait. Parce que nous, on a eu à être menacés, pas qu'une seule fois, même dans notre maison. Ma mère, elle a eu à être menacée. Ça, je dirais même que ça faisait partie de son quotidien. Mais elle n'a jamais lâché. Pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais lâché? Maintenant, là, je comprenais pourquoi. Pourquoi est-ce que ma mère, entre guillemets, s'entêtait à faire ce qu'elle faisait? Et moi, aujourd'hui, parce que voilà, je sais que les dangers sont là et voilà, ça plane peut-être sur ma tête. Mais on ne doit pas avoir ce côté, je dirais, personnel. On doit avoir le côté collectif. Moi, je m'attelle au fait, je ne me vois pas, je ne me dis pas Pascal Borotto ceci, non. L'humanité ceci ou cela, là ça va. Pour la cause juste, pour une cause juste, pour l'humanité, je fais ce que je fais.
Alors, Paskovitch, c'est elle qui vous a nommé ainsi?
Oui, Paskovitch.
Paskovitch, ouais. Voilà, votre mère Solange Lusiku Nsimire.
Oui.
Paskovitch, c'est comme ça qu'elle vous appelait ou bien?
Oui, c'est un petit surnom affectueux, maternel surtout, parce que voilà, je m'appelle Pascal, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle a trouvé les Vitch là. Mais mm-hmm. Voilà, c'était très agréable de toujours s'identifier à ma mère mm-hmm. par ces surnoms-là. Mm-hmm. Et voilà, aujourd'hui, j'espère que quand elle songe à moi, quand elle veut peut-être me parler, qu'elle songe toujours à Paskovitch. Mm-hmm. Parce que je me vois plus un Paskovitch qu'un Pascal aux yeux de ma mère. Ouais.
Mm-hmm. Alors, et en conclusion, le message principal ou la leçon à tirer de ces livres
oui.
écrits par un jeune,
c'est la résilience. Quand je parle de la résilience, c'est à bien des niveaux dans notre vie personnelle comme professionnelle. Moi, j'ai à être résilient d'abord après la perte de ma mère, parce que c'était une période très difficile, assez difficile pour moi, parce que je n'arrivais même plus à sortir de ma chambre. Mais voilà, je dirais entre guillemets être résilient. Et ces livres renvoient ces messages-là pour dire que la résilience ne commence pas forcément par de grandes choses ou de grandes actions. Moi, la première résilience que j'ai à faire, c'est de sortir de ma chambre. Voilà. Et le côté peut-être professionnel aussi, j'ai été résilient du fait de me dire que voilà, quoi que les dangers et là, il faut que je dise la réalité comme telle. Quoique la réalité est brute, cruelle, mais il faut que je le dise.
Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que vous écoutez le magazine 100% Jeunes sur Radio Capi. Et aujourd'hui, nous parlons de la littérature. Un domaine qui intéresse aussi la jeunesse, les jeunes congolais, mais qui a aussi quelques difficultés. Et pour cela, nous recevons dans ces studios Pascal Boroto, un jeune écrivain basé à Bukavu, au sud Kivu, lui qui a publié son ouvrage « Les noms de ma mère » dont on parle. Là, nous abordons l'aspect récompense. Vous avez reçu le prix Voix d'Afrique 2026, justement grâce à ces romans, Les Noms de ma mère. Oui. Et vous êtes les premiers écrivains congolais, si je ne me trompe pas, à recevoir cette distinction littéraire. Parlez-nous un peu de ces prix-là.
Voilà, le prix Voix d'Afrique est un prix initié par ma maison édition actuelle, JC Lattès, Jean-Claude Lattès, en partenariat avec l'RFI et la Cité internationale des arts à Paris.
RFI, Radio France Internationale.
Oui. C'est un prix que tout jeune, à partir de 18 ans jusqu'à 30 ans, peut concourir. Voilà. Donc, il ne suffit que d'avoir quelque chose à dire pour se faire, mais il faut tout d'abord, ce qui est peut-être plus important ici, est qu'il ne faut jamais être déjà pas publié jusque-là. Donc voilà, c'est un prix qui fait émerger de nouvelles voies de la littérature au niveau de l'Afrique.
Et qu'est-ce que ça apporte dans votre vie?
Voilà, comme je dis, ça a tout changé. Ça a tout changé, non seulement ma personne, mais aussi mon statut comme tel. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, la littérature se retrouve au centre de ma vie. Et ça change beaucoup. Ça change beaucoup pour moi. Donc voilà, aujourd'hui, je me dis, il faut que je me donne dans ce monde littéraire que j'aime bien, parce que voilà, j'ai été initié de la plus belle de manière par mon éditrice Anne-Sophie Stefanini, mais aussi par le président du jury qui est Mbougar Sarr, et que j'appelle affectueusement mon parrain, et ma marraine Emle Boum, qui sont alors très incroyables. Et le fait que j'ai fait mes premiers pas dans ce monde à leur côté, pour moi, était la meilleure des choses. Et je ne souhaite, à cause peut-être de cette présence-là qui m'a encouragé, qui m'a accompagné, je souhaite continuer dans ces mondes littéraires aujourd'hui.
Est-ce que vous-même, en tant que jeune écrivain, est-ce que vous sensibilisez, parce qu'au début de l'émission, vous avez parlé de l'option sensibilisation, est-ce que vous sensibilisez les autres jeunes à aimer ou à vous emboîter le pas dans la littérature?
Oui, chaque fois que j'ai l'occasion, je l'ai fait. Et voilà. Aujourd'hui, j'arrive toujours même à accompagner certains jeunes d'une manière personnelle qui cherchent aussi à faire quelque chose. Comme j'ai à le dire aussi, il y a des jeunes qui m'ont écrit d'une manière personnelle et qui me disent, voilà, nous avons aussi des choses à dire au monde, nous avons des choses à offrir. Je dis, ok, je suis là. Envoyez tout ce que vous pouvez et je vais essayer de faire de mon mieux. S'il y a des choses à conseiller, ok, je les ferai. Et sans doute, il y aura même qui seront, je dirais, plus doués que moi. Ce qui me rend encore plus fier. Voilà, et je l'ai dit à chaque fois sur les réseaux, lisez, écrivez, essayez, du moins essayez. Parce que moi, en essayant, je me suis retrouvé à être publié. Pourquoi pas vous, jeunes, autres jeunes.
Pascal, essayez, publiez. Mais il y a des jeunes il y a des jeunes qui peuvent avoir des idées, qui peuvent aimer les domaines, mais qui ne savent pas comment commencer.
Voilà.
Qu'est-ce que vous allez leur dire?
En fait, c'est quand on aime quelque... Moi, je sais que quand on aime quelque chose, on essaie toujours de se documenter sur la chose. Et là, vous allez comprendre que quand on se documente sur la littérature en soi, il y a toujours, voilà, peut-être des opportunités par-ci, par-là, ou bien juste cette envie-là de dire ce que vous avez à dire, et c'est le plus important. Et il n'y a pas de formule comme telle pour dire que je commence un roman, un canevas. La littérature, voilà, offre cet avantage-là, de s'adonner comme on veut. Vous pouvez y entrer comme vous voulez, y sortir comme vous voulez.
Mais justement, comment commencer? C'est quoi la procédure? C'est comme ça que les jeunes se posent des questions.
Voilà.
C'est quoi la procédure? C'est-à-dire,
la première des choses...
moi je suis là, on suppose que je sois jeune comme tous ces autres jeunes,
oui.
Je suis jeune, voilà, grâce à Mzati, je me dis, je veux écrire,
oui.
Je veux publier mon livre.
Oui.
Là, on fait vraiment pour nos auditeurs,
oui.
Nos jeunes qui,
oui.
qui nous écoutent.
Oui.
J'ai des idées,
oui.
Je me dis, non, je suis passé par Radio Capi,
oui.
J'aimerais parler des Radio Capi.
Oui.
Et j'aimerais mettre à profit mon expérience à Radio Capi
oui.
aux lecteurs.
Oui.
Et comment je fais?
Déjà, commencez par mettre sur papier, sur une feuille, tout ce que vous avez en tête.
Mm-hmm.
Et ça, il n'y a pas de formule comme telle. Comment? Parce qu'on peut nous mettre là, face caméra, et nous dire d'écrire ce qu'on voit.
Mm-hmm.
Vous aurez votre regard à vous, et moi j'aurai mon regard à moi. Ce qui sera totalement différent. Voilà. C'est que la littérature demande, et c'est quelque part, j'ai à le dire, la littérature n'oblige pas. Dites les choses comme vous les voyez. Déjà, quand vous aurez à faire cet exercice-là, à mettre sur papier ce que vous avez peut-être porté, ce que vous cherchez à dire, à partir de là, vous allez sans doute chercher comment peut-être être édité ou publié. Et c'est là où on parle d'opportunités. Les opportunités sont toujours là. Il ne suffit aussi que de se documenter, de chercher sur Internet. Voilà, peut-être. C'est même pourquoi, là, au début, j'ai parlé des structurations aussi dans ces domaines littéraires. Que l'État nous offre cet espace-là aussi, où on sait qu'on aura facilement à candidater sur un tel ou tel prix pour que, voilà, pour que moi, jeune qui n'a jamais été publié, que j'ai cette opportunité d'être publié gratuitement, parce qu'une auto-édition coûte cher. C'est un peu ça. Voilà, quoi qu'il y a de ces initiatives-là aujourd'hui, mais il n'y en a pas comme telles. Dans le monde, chaque jour, il y a des prix littéraires. Voilà pourquoi ne pas en créer encore plus ici aussi pour nous, Congolais.
Comment vous allez, parce qu'après la publication de votre livre, par exemple,
oui.
Les noms
de ma mère,
de ma mère,
oui.
Quel a été son impact dans votre communauté et surtout chez les jeunes? C'est quoi son impact?
Voilà, son impact, tout d'abord, je dirais que ces prix, vu que moi, jeune, qui aujourd'hui se retrouve à être lauréat du prix Voix d'Afrique, envoie déjà un message assez clair aux jeunes que voilà, nous tous, on peut être lauréat du prix Voix d'Afrique.
Mm-hmm.
Déjà, donc, ça donne envie. C'est réel comme impact.
Mm-hmm.
Sans doute, ça donne aussi envie de se documenter sur ceux qui ont eu à lire les livres comme tel, à apprendre plus sur la situation à l'est du pays. Voilà.
Et il y a quand même des feedbacks. Il y a des gens qui
j'en reçois tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est tous les jours.
N'est-ce pas? Ça vient quand même changer la perception selon laquelle en Afrique, on n'aime pas trop lire. Et surtout
exactement.
Au Congo, on n'aime pas télé. Il y a même cet adage populaire. On vous dit, la meilleure façon de cacher quelque chose à un Africain ou à un Noir, c'est de les mettre dans un livre.
C'est carrément faux.
C'est faux, hein?
C'est carrément faux.
Ou tout simplement, c'est tombé caduque, les gens se sont réveillés, ils commencent à lire,
non,
commencent à écrire.
Vous voyez, notre population est assez dense et on est très nombreux.
Mm-hmm.
Voilà, mais on a tendance à toujours généraliser des choses, des faits.
Mm-hmm.
Mais je vous dis, il y a une bonne partie, une très bonne partie qui lit. Donc voilà, on est là et on grandit, on continue de grandir. On espère en tout cas qu'il y aura cette culture-là, comme j'ai allé dire, qu'il y aura cette culture-là de le bas âge, d'aimer lire, d'aimer écrire.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement sensibiliser davantage à la lecture ou
voilà.
à l'écriture? Parce que c'est vrai, dans nos écoles, on enseigne les lettres.
Oui.
Mais est-ce que, selon vous, il y a nécessité qu'on puisse renforcer le système éducatif dans ces domaines-là de la littérature.
Bon, moi, j'ai tout d'abord, rien n'est parfait. Donc, il y a toujours quelque part, quoique un travail peut être excellent, mais il y aura toujours quelque chose à ajouter pour les rendre encore plus excellents. Donc voilà, quand on parle de l'éducation en ce sens, il y aura toujours quelque chose à faire, comme dans toute autre profession. Et quand on parle de sensibilisation, c'est voilà, créer ces espaces-là où les enfants déjà pourront apprendre à lire, pourront apprendre à écrire dès le bas âge. Voilà, qu'on se donne ces temps-là aussi de penser à l'enfant, pas qu'au jeune. L'enfant qui sera jeune à un moment donné, et le jeune qui deviendra vieux à un moment donné. Et voilà.
Et que pensez-vous ?
Déjà, pardon.
Allez-y.
Et quand on parle aussi de la sensibilisation, c'est déjà ça aussi. Ces espaces, ces genres d'émissions qui sensibilisent. On voit un peu ? À bien des niveaux, et je dirais dans tous les domaines, il y a cette possibilité-là d'offrir. Même des entreprises privées peuvent créer des prix de mérite pour des jeunes écrivains. Pourquoi pas ? Et c'est là, ça va nous pousser à écrire, ça va nous pousser à lire.
Pour terminer, Pascal Brotteau, quel message avez-vous à lancer à tous les jeunes vraiment de la RDC, par rapport à ces domaines de littérature ? Et peut-être aussi un mot aux autorités qui sont censées aussi accompagner les jeunes dans ces domaines-là en mettant à leur disposition justement des infrastructures adéquates de littérature.
Oui, que les jeunes qu'ils lisent et qu'ils écrivent. Ceux qui ont déjà commencé, qu'ils continuent. En tout cas, qu'ils reçoivent mon soutien éternel et mes encouragements. Et voilà, aux autorités, qu'ils continuent de nous porter, qu'ils créent plus d'espace, qu'ils structurent ce monde littéraire qui est là, dans nos vies, toujours présente, parce que la littérature, elle est là et elle sera toujours là. Ça, je peux l'assurer. Peut-être à eux, maintenant, autorités de porter cette volonté à grande échelle. Aux autorités de porter, voilà, cette volonté d'apprendre à écrire, cette volonté de lire, à la portée de tout le monde, à la portée de tout Congolais.
Et voilà, et donc, ma collègue Esther Mambote et moi, tout ce que nous observons là, nous devons écrire. Parce que nous, nous nous mettons seulement à écrire, à publier sur Radio Capi.
Oui,
nous sommes aussi des écrivains.
Voilà, exactement. Voilà, et déjà, vous allez comprendre que même dans mon roman, il y a un petit style journalistique.
Voilà.
Voilà, ce qui est parfait aussi, quelque part. En fait, l'écrit en soi forme toutes sortes d'écrits et t'inspirer d'une autre chose.
Très bien.
Oui.
Merci beaucoup, Pascal Brotteau, jeune écrivain, mais aussi confrère journaliste. Hein.
Oui,
confrère journaliste. Donc, nous sommes tous des écrivains.
Oui, oui. Quelque part, oui. Merci beaucoup.
Merci, en tout cas. Oui. C'était un grand plaisir de vous recevoir dans cette émission des jeunes sur Radio Capi, votre radio. Je pense que cette sensibilisation à la lecture et à l'écriture chez les jeunes pourra s'intensifier, et j'espère que vous n'allez pas vous limiter à mi-chemin. Vous allez continuer la lutte comme votre mère.
L'espère. Je l'espère aussi. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Ce qui fait énormément plaisir. Toujours parler de ces romans sera pour moi un moment très important que je chérirai toujours. Aussi, toujours sensibiliser sur la situation sécuritaire, sur la situation de l'Est du pays est quelque chose de très important et je dirais très humain comme exercice à faire. Et voilà, on continue la sensibilisation.
Pascal Brotteau, merci beaucoup. Accent Tisana, Totonio Botondi.
Merci à vous, en tout cas, Tuko Pamoya.
Accent, au revoir.
Accent, merci à vous, au revoir.
Ainsi se referme ce numéro des 100% jeunes consacré à la littérature et à son rôle dans l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Merci à notre invité, l'écrivain et journaliste Pascal Brotteau, lauréat du prix Voix d'Afrique 2026, d'avoir partagé avec nous son parcours, sa passion pour l'écriture et sa vision de la place du livre dans notre société. Merci également à Esther Mambote qui nous a aidé à réaliser cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. La mise en onde était assurée par Pierre Diassinois. Coordination et présentation grâce à Mzati Massanzi sous la supervision de Jean-Marc Matoakimofele le Dijano. Rendez-vous au prochain numéro de 100% Jeunes, votre émission consacrée à la jeunesse congolaise. Au revoir et à très bientôt sur nos antennes.